time, baby.
Il est 13h.
Vous rêvez d'intégrer une école de commerce d'excellence reconnue dans le monde entier? L'ESSEC Business School vous ouvre ses portes exceptionnellement. Le samedi 31 janvier 2026, venez découvrir notre campus nouvelle génération à Cergy, nos formations bachelor et master, et la richesse de nos programmes en luxe, management, finance, marketing et bien plus encore. Rencontrez nos professeurs, échangez avec nos étudiants et plongez dans l'expérience ESSEC à travers conférences et rencontres thématiques. Et si l'avenir se définissait ici? Inscription et programme détaillés sur essec.edu/radio.
De l'Est de l'Ukraine, revendiquée par Moscou.
Et on en parlera avec notre invité Ulrich Bouna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomacy, dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant.
RFI. À suivre aussi en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu active l'article 49.3 pour faire passer le budget à l'Assemblée. Neige, verglas et vagues de froid en vue dans une partie des États-Unis et au Canada, la faute à ce qu'on appelle un vortex polaire. Simon Rosé est là pour nous expliquer tout ça. Et puis, logique respectée à l'Open d'Australie de tennis, ça passe pour les favoris. Mais il n'y a plus de Français en lice.
RFI Midi.
Mais d'abord, Charlotte, Internet qui revient petit à petit en Iran.
Et avec le réseau, de nouveaux témoignages sur la répression sanglante du mouvement de contestation. L'Iran coupé du monde pendant 2 semaines, sans connexion et donc difficile d'établir un bilan clair, précis de la répression des manifestations anti-régime. Officiellement, le pouvoir fait état de plus de 3100 tués. L'ONG Iran Human Rights a pu vérifier la mort de plus de 3400 personnes, mais elle estime que le bilan réel pourrait dépasser les 20 000 morts. Bonjour, Oriane Verdier.
Bonjour.
Du service international de RFI. Internet donc revient petit à petit et des témoignages vous sont parvenus ces dernières heures.
Oui, depuis hier soir, nos contacts en Iran répondent progressivement à nos messages laissés sans réponse depuis 15 jours. Donc, certains restent flous, d'autres parlent de l'odeur de la mort dans l'air, de culpabilité de pouvoir respirer alors que d'autres ont péri innocents, de corps emmenés en camion poubelle et puis au milieu de la nuit, l'un d'eux choisit d'aller plus loin. Nous sommes sous le choc, commence la jeune femme. Ils ont massacré leur propre peuple, tellement de gens. Les messages écrits deviennent vocaux. À travers tout le pays, chaque personne que je connaît beaucoup de morts. Je les ai vus faire moi-même, affirme-t-elle. Ils tiraient sur les gens en visant le cœur ou la tête, pas les jambes ni les mains, non. Ils tiraient pour tuer. Les massacres ont commencé jeudi, il y a 15 jours, se rappelle-t-elle. Ce soir-là, les manifestations ont été massives dans tout le pays. Elles ont continué le lendemain. Soudain, tous ces messages s'effacent. J'ai peur qu'ils m'accusent d'espionnage, me dit-elle. Une accusation qui peut valoir la peine de mort. Finalement, elle reprend. Je veux que le monde sache. Elle me raconte les familles qui ne peuvent pas enterrer leurs morts, car beaucoup de corps seraient... Pardon, excusez-moi.
Et témoignage effroyable, hein, on le comprend, Oriane Verdier, et cette émotion des personnes que vous avez pu contacter. Témoignage donc qui reviennent après la répression sanglante et avec le retour progressif d'Internet. J'ajoute que Donald Trump, lui, dit surveiller de très près l'Iran et selon lui, une armada navale américaine est en route vers le Golfe au cas où.
La photo a fait le tour des réseaux sociaux aux États-Unis. Le cliché d'un petit garçon de 5 ans arrêté par la police anti-immigration.
À Minneapolis, dans le Minnesota, là où une Américaine, Renée Good, déjà a été tuée au volant de sa voiture par les agents de l'ICE qui multiplient les opérations et les arrestations. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour.
Une journée de deuil est organisée à Minneapolis aujourd'hui.
Oui, une manifestation aura lieu dans le centre-ville en mémoire de Renée Good, mais aussi en solidarité avec les migrants et tous ceux qui ont été victimes d'ICE, la police de l'immigration. Selon le ministère de la Sécurité intérieure, 3000 personnes, dont des enfants, y compris ce petit garçon de 5 ans dont vous parliez, eh bien 3000 personnes ont été arrêtées dans l'état du Minnesota depuis un mois et demi. Alors aujourd'hui, des écoles, des magasins, des entreprises, des restaurants, des musées même vont fermer leurs portes au moins quelques heures. Certains commerces qui ne peuvent pas se permettre de baisser le rideau vont à la place faire des dons de nourriture à des associations qui viennent en aide aux aux étrangers et aux personnes pauvres. Des centaines de chefs d'entreprise ont adressé une lettre au Congrès hier pour soutenir cette journée ville morte, une pause non violente afin de réfléchir et de défendre nos droits constitutionnels, écrivent-ils. Les méthodes d'ICE suscitent l'indignation à Minneapolis, mais aussi ailleurs aux États-Unis. Selon un sondage réalisé par Economist YouGov, la proportion de personnes interrogées favorables à la suppression d'ICE dépasse pour la première fois le pourcentage de celles qui s'y opposent.
Marine de la Moissonnière est de son côté, l'ONU, via le haut commissaire aux droits de l'homme, se dit sidérée par les mauvais traitements désormais routiniers, je cite, infligés aux migrants aux États-Unis.
Une première réunion à trois prévue aujourd'hui entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, ça doit se passer à Abu Dhabi.
Rencontre sur les questions en suspens pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. Le Kremlin a déjà rappelé son exigence, le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Après un court échange hier à Davos avec Donald Trump, le président ukrainien, lui, l'a souligné. Il y a un accord sur les garanties de sécurité pour Kiev après une éventuelle fin du conflit, mais reste donc cette épineuse question de territoire revendiquée par Moscou.
Nous avons finalisé le document. Il doit maintenant être signé par les deux parties, par les présidents, puis transmis aux parlements nationaux, le Congrès des États-Unis et le Parlement ukrainien. Mais le problème le plus difficile que nous n'avons pas encore résolu est celui de la partie orientale de notre pays. Je pense que des réunions trilatérales nous permettraient peut-être de présenter différentes options. Tout tourne autour des territoires. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a aussi critiqué ses alliés européens sur la gestion de la crise autour du Groenland. L'Europe a l'air perdue et fragmentée, hein, c'est ce qu'il a dit. Les dirigeants européens, pourtant, ont affiché leur unité sur ce dossier hier soir à Bruxelles. Le président américain a bien renoncé à une intervention militaire dans le territoire autonome danois, mais les 27 disent rester vigilants. Il y a peu de détails à ce stade sur le cadre d'accord annoncé entre les États-Unis et l'OTAN sur le Groenland. La première ministre du Danemark a rencontré tout à l'heure justement le patron de l'Alliance Atlantique. Et dans la foulée, Mette Frederiksen a rendez-vous à Nuuk, au Groenland, avec son homologue.
RFI à Paris, 89 FM.
Jour après jour, la colonisation israélienne avance toujours un peu plus dans les territoires palestiniens.
Nouvel exemple à Silat al-Daer. C'est un village au sud de Jénine. Cette semaine, les habitants de ce village ont été informés de la destruction de dizaines de maisons et de la confiscation aussi de plusieurs hectares de terre par Israël. Le but pour l'État hébreu, c'est de construire une route pour relier les colonies voisines de Homesh et Sanour. Et dans ce village de Silat al-Daer, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre ni quand. Reportage sur place, Alice Froussard.
Depuis le toit d'une maison en construction, Abou Wael explique la géographie du village de Silat al-Daer. Il y a la colonie de Sanour au loin, derrière il y a Homesh et entre les deux, la future route que l'armée israélienne veut imposer.
Elle commencera en haut, là-bas, elle redescendra où on est, à droite, puis fera un virage jusqu'à là-bas.
Soit au plein milieu du village, le visage éteint, ce Palestinien d'une cinquantaine d'années pointe du doigt les maisons aux alentours, celle de son frère d'un côté de la future route, celle de deux de ses fils de l'autre. Comme lui, les habitants ont vu le plan avec les futures parcelles confisquées, les futures maisons démolies. Une catastrophe, soupire-t-il. Surtout, la continuité du village deviendrait impossible.
Si une route passe par ici, ils nous enferment. Nous serons littéralement assiégés. C'est comme si nous étions en prison. Tout sera bloqué. Ici, c'était des terres cultivables, du blé, des oliviers. Les gens vivaient. Honnêtement, personne ne sait quoi faire.
C'est cette même question qui divise les habitants. Que faire? Parler publiquement, tenter toutes les procédures juridiques ou bien se taire pour éviter une punition collective? Certains sont déjà résignés. Rien ne changera, selon Mohamed Al-Antoli.
La situation est très claire. Personne n'a réellement la possibilité de faire quoi que ce soit. Maintenant, si une patrouille de l'armée arrive, elle peut expulser les gens et il n'y a pas d'alternative. Mais où veulent-ils qu'on aille?
Il évoque les réfugiés du camp de Jénine déplacés, les communautés bédouines expulsées de leurs terres. Alors pourquoi ici, dans ce village, serions-nous des exceptions, demande-t-il. Alice Froussard, Silat al-Daher, RFI.
en RDC, en République démocratique du Congo, à Uvira, dans la province du Sud Kivu. La vie reprend progressivement après des jours de fortes tensions. On va y revenir dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel. Le président congolais Félix Tshisekedi, lui, est à Paris aujourd'hui avec au programme, en ce moment même, un déjeuner avec le président français Emmanuel Macron.
En France encore, ça y est, la partie recette du budget 2026 est adoptée.
Conséquence de l'échec de deux motions de censure déposées tout à l'heure par le Rassemblement national et la France insoumise, après l'usage du 49-3 par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui devra affronter deux autres motions. Raphaël Delvolvé, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, vous suivez ces débats. Le Premier ministre vient d'engager à nouveau la responsabilité du gouvernement, cette fois sur la partie dépenses.
Oui, pas de temps à perdre pour le chef du gouvernement et même, avouons-le, pour une bonne partie de cette assemblée, lassée, fatiguée par ce long, cet interminable feuilleton du budget. Peu de monde ce matin dans l'hémicycle pour entendre Sébastien Lecornu invoquer une seconde fois le 49-3, ni même pour examiner les deux motions de censure, l'une de la gauche hors PS et l'autre du RN. Elles avaient peu de chances de passer, il fallait 288 voix. La motion de censure de la gauche, qui avait le plus de chances de passer, n'en a recueilli que 269. Donc, il a manqué 19 voix. C'est à la fois peu et beaucoup. Car même si ce projet de loi de finances fait grincer des dents, notamment à droite et chez les macronistes, où l'on déplore, vous savez, les très nombreuses concessions faites aux socialistes, eh bien, la raison l'emporte. D'accord, ce budget est mauvais. Mais le chaos d'une censure coûterait plus cher, a-t-on notamment entendu dans les différentes prises de parole du socle commun. Toutefois, le Premier ministre, qui assume, je cite, de mettre fin à des débats qui ne permettent pas de conclure, devra rester vigilant puisque les prochaines motions de censure votées probablement début de semaine prochaine porteront sur les dépenses. Un volet sur lequel la droite espère encore des gestes, notamment Michel Barnier, ancien Premier ministre, aujourd'hui député, qui dit ce matin attendre des concessions qui n'exclut pas de pouvoir voter une éventuelle censure. ALR l'a d'ailleurs voté aujourd'hui, comme 5 socialistes, des élus soumis à une forte pression sur leur droite ou sur leur gauche. Une pression appelée à monter encore ces prochains jours, même si a priori, le budget 2026 n'a pas de majorité absolue contre lui à l'Assemblée nationale.
Raphaël Delvolvé, en direct du Palais Bourbon à Paris. Alerte grand froid sur une partie de l'Amérique du Nord à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi, avec des températures glaciales jusqu'à moins 20 degrés dans certaines régions du Canada et même des États-Unis, des chutes de neige, du verglas, bref, un froid polaire, et pour cause, c'est ce qu'on appelle un vortex polaire. Vortex polaire, Kézako, Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Comme son nom ne l'indique pas, ce phénomène pourrait être paradoxalement favorisé par le réchauffement climatique.
Oui, c'est un phénomène qui n'est pas fréquent, mais pas inhabituel pour autant, du moins pas dans ses proportions. Une très large partie du Canada, une grosse moitié est des États-Unis vont subir ce froid très intense durant les prochains jours, en cause ce qu'on appelle donc dans ce jargon météorologique un vortex polaire. La masse d'air froid, normalement bloquée au-dessus de l'Arctique, descend plus au sud et elle s'y fixe. Cette perturbation, elle est causée par ce qu'on appelle là aussi des ondes atmosphériques, des déplacements de grandes masses d'air qui viennent rompre cette stabilité au-dessus du pôle. Et on constate, Charlotte, que depuis une vingtaine d'années, ce phénomène se produit plus régulièrement. Et même si on manque encore de recul, quelques études expliquent cela par le réchauffement climatique. La hausse des températures, elle n'est en effet pas uniforme autour de la planète, notamment au-dessus de l'Asie. Des différences de température qui peuvent alors favoriser la formation de ces ondes atmosphériques qui vont perturber le vortex polaire et l'étirer sur l'Amérique du Nord. Avec donc ce qui semble être un paradoxe, les États-Unis, le premier pays responsable du réchauffement climatique par son usage du pétrole, du gaz et du charbon, eh bien, ils pourraient ainsi s'exposer à des vagues de froid plus intenses et plus fréquentes.
Simon Rosé, au Canada, la société d'État anticipe un pic de consommation, de demande d'électricité dans les jours qui viennent.
Un grand classique revisité en ce moment au théâtre Le 13e Art à Paris.
Roméo et Juliette de Shakespeare, qui devient Juliette et Roméo. C'est un ballet contemporain inspiré donc du mythe du poète anglais avec un duo de danseurs et une narratrice slameuse, Lisa Giroldini.
Les Montaigu viennent de la ville du bas. Droit froid, une famille de soldats.
Juliette et Roméo dépoussièrent la tragédie de Shakespeare et la réactualisent en un ballet néoclassique, fusion de breakdance, de danse contemporaine et urbaine. Côté son, le compositeur Fabrice Aboulker et la comédienne et slameuse Climax ont entremêlé musique classique et électronique.
Quand j'ai créé la mélodie, j'ai un peu pensé à la méchante dans La Petite Sirène, donc j'adore le chanter.
Mais Roméo arrive, le voici. Voulez-vous que j'interroge les esprits ?
Les danseurs alternent entre pas de deux et solo. Chaque objet ou meuble est intégré dans leur chorégraphie, parfois proche du cirque. Pour l'interprète de Juliette, Maëva Lasserre, le décor ajoute à leur performance dansée.
Par exemple, la scène du balcon où je monte à 3 mètres de haut de la structure, là, ma danse, elle prend de l'ampleur et l'histoire prend de l'ampleur aussi.
Au début du ballet, Juliette et Roméo se rencontrent debout avec virtuosité, puis ils s'ancrent un peu plus et finissent par danser au sol. La chorégraphe Tamara Fernando.
On a vraiment travaillé sur le poids du corps, justement, sur les doigts, par exemple. Comment les relâcher sur plein de micro-détails. C'est de l'orfèvrerie, on va dire.
Malgré seulement 3 personnes sur scène, Juliette et Roméo captivent et s'imposent encore aujourd'hui comme une tragédie intemporelle.
Le mix de toutes les cultures, 99.1.
Voilà, Juliette et Roméo au théâtre Le 13e à Paris jusqu'au 8 février.
À Paris, où il est 13h15. Et on passe à l'actualité sportive. Bonjour Eric Mamet.
Yeah. el agua. A su querer, quererme yo. El agua, el agua, no voy a valer.
Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso.
HDR.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
99.1 FM. We'll be right back.
les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons. Pollue la terre, la mer et les airs, l'atmosphère. Pollue la terre, la mer et les airs, l'atmosphère, yeah. Pour tes hypocrisies, de venir nous parler d'écologie, d'émissions de gaz carbonique, réchauffement climatique. Nous avons su préserver les équilibres entre l'homme et la nature. C'est la philosophie de notre culture. Ils ont créé les déséquilibres. Les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons. Pollue la terre, la mer et les airs, ouais, l'atmosphère. Pollue la terre, la mer et les airs, l'atmosphère,
HDR 99.1.
So we that Chanel looking like a cocaine addict.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
Oh Chigualito, Chigualatero, Chigualito, Chigualatero.
Vous écoutez HDR 99.1.
What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. You got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate.